Merci aux trois lecteurs d'abord de ces trois débuts de récits de Blanchot. Quant à moi, ça va être un peu moins drôle puisque je vais essayer de m'interroger avec vous sur ces débuts de récits, sur ce qui peut-être fait la singularité des débuts de récits de Maurice Blanchot, et en particulier parce qu'il m'a semblé bon de m'attarder plutôt à un qu'à plusieurs pour la commodité, la simplicité des références. L'un d'entre eux, donc, qui sera à la fois finalement révélateur des autres et en même temps qui aura sa propre spécificité. Je voudrais d'abord tout simplement me souvenir avec vous de ce qui nous est passé par la tête, Pierre-Antoine et moi, lorsque nous avons proposé, parmi d'autres sujets d'intervention, plus sérieux visiblement, sur lesquels les intervenants précédents ont parlé, lorsque nous avons posé, donc, parmi d'autres sujets d'intervention, et finalement aussi pour conclure ce cycle de lecture et de conférences, de réfléchir au début, au milieu et à la fin. À certains, ce triple sujet apparaîtra nécessaire, à d'autres injustifiable, à d'autres enfin, je le sais, ils me l'ont dit, saugrenu. Je me souviens donc que nous avions plusieurs raisons. La fin et surtout le début des récits sont des objets d'études conventionnels. Et je savais que Jonathan Degenève, qui parlera tout à l'heure de la fin, travaille depuis plusieurs années déjà sur la fin des récits de Blanchot, Beckett et Desforêts. Et puisqu'entre le début et la fin, il y a un milieu, beaucoup moins analysé car beaucoup moins discernable, et que Daniel Dobels, qui a donc dû renoncer au dernier moment, m'avait déjà dit que c'était là un point ou une ligne ou un segment ou un espace qui l'intriguait chez Blanchot, nous avions trouvé là, très vite, aussi rapidement que nos sujets, deux de nos trois intervenants. Il me restait simplement, d'ailleurs, à être le troisième. Il y a cependant une raison et une pression plus forte. Pierre-Antoine avait déjà travaillé sur des débuts de textes en atelier de lecture ici même. Pour n'être pas tout à fait étranger moi-même à la lecture et au théâtre, je concevais à quel point ce moment de surgissement de la parole, crevant ou déposant le silence, pouvait importer à la mise en voie d'un récit. Et pour n'être pas tout à fait étranger à l'œuvre de Blanchot, je concevais à quel point ce moment d'inscription de la phrase, réservant ou préservant le vide, pouvait importer à la mise en forme d'un récit. Bref, je soulageais d'avance l'obsession qui m'avait immédiatement cerné à l'étrange et stimulante proposition d'Emmanuel Payen, construire des ateliers-conférences. Obsession pourtant insistante, puisque vous en avez été chaque fois, chaque mois, témoin, je soulageais cette obsession du hiatus, de la faille, de la syncope, de la déliaison entre les deux moments de la soirée, lecture et conférence. Cette obsession serait résolue, précisément aujourd'hui, en nous interrogeant ainsi, ensemble, sur le lien entre le texte et sa mise en voie, autour de cette notion du début et, corrélativement, de ces notions du milieu et de la fin. C'était bien sûr une illusion, mais c'est cette illusion que je voudrais interroger ici. Il me serait facile, en tant que spécialiste, de rechercher les nombreux passages où Blanchot a parlé du début et du milieu et de la fin, et de la limite et de l'origine et de l'écriture et du vide et de la parole et du silence, et de montrer alors que ces récits répondent ou correspondent à ce qu'il a pensé dans des textes plus théoriques, philosophiques ou critiques. Une telle facilité de méthode, qui n'exclut évidemment pas une difficulté de lecture, voilà précisément qui me dérange souvent dans les interprétations faites à Blanchot. On commente ses récits avec les mots de ses essais. Je n'y céderai que très ponctuellement, sans vouloir m'y rendre ni m'y arrêter. Et puis de ce genre de débat, finalement, nous nous soucions assez peu ici. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de poser avec vous, avec toutes ces lectures que nous avons entendues et que nous allons encore entendre, la question suivante. Que se passe-t-il lorsque nous lisons à haute voix les récits de Maurice Blanchot? Et plus particulièrement, en ce qui me concerne, que se passe-t-il lorsque nous lisons à haute voix les débuts des récits de Maurice Blanchot? Cette question me semble légitime pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle a pour souci d'interroger ce qui s'est passé ici, à 6 reprises, et la plupart du temps, faut-il le constater, au début de chaque mois. Ensuite, parce qu'il me semble entendre advenir, au début de chaque récit de Blanchot, le murmure, l'écho ou la tombée d'une voix intérieure. Ma première hypothèse sera donc la suivante. Chaque début peut se lire, mais aussi s'entendre, comme la mise en œuvre d'une oralisation du récit, ou plutôt d'une oralisation de la narration, une oralisation écrite, certes, mais qui, sans lyrisme ni éloquence, affecte ainsi l'écriture et donc encore la lecture, qu'il s'agisse de la solitude, de la lecture silencieuse ou du partage de la lecture à haute voix. Cette hypothèse interroge précisément l'illusion dont je parlais pour commencer. Car peut-on dire que les paradigmes de la lecture silencieuse et de la lecture à haute voix, de la solitude et du partage, du vide et du silence, de l'écriture et de la voix, de la page et du corps, du livre et de l'espace, se recoupent, se recouvrent, se rejoignent, s'enveloppent, s'abritent, se lient, se lisent, s'entendent, se comprennent. C'est donc aussi d'une certaine justice qu'il sera question, d'une justice à rendre d'abord à Pierre-Antoine, pour avoir tenté, chaque fois, si délicatement, d'accueillir dans le monde, le nôtre, ces textes hors monde qu'il connaît intimement et dont il sait si bien, justement, l'impossibilité de leur accoutumance et la nécessité de leur oblation. On aura donc compris qu'il ne s'agira pas ici de tenter une analyse poétique, je veux dire sémiologique, poéticienne, des débuts des récits de Blanchot. Et pourtant, il en sera aussi un peu question. Il m'arrivera de me référer à une remarquable étude de Jean-Patrice Courtois, publiée l'an dernier dans le volume des récits critiques, souvent cité, je n'y reviens pas, une étude qui reprend le travail poéticien sur les récits de Blanchot, là où l'avaient laissé Jean Starobinski et Henri Méchonique, dans les années 60 et 70. Il n'est pas indifférent, et j'y reviendrai, que Jean-Patrice Courtois, universitaire spécialiste de Montesquieu et des Lumières, soit aussi, probablement faudrait-il dire d'abord, un poète. Mais je ne veux pas multiplier les références. C'est pourquoi je me limiterai à relire et à réentendre avec vous le début d'un seul récit de Blanchot. Ce choix est commode et permet de ne pas nous perdre dans le corpus pour mieux maintenir la continuité de la réflexion. Il est aussi singulier, personnel et recouvre une obsession d'une autre. Le début de ce récit m'obsède depuis plus de 10 ans. Il m'est arrivé, je l'avoue, de travailler sur ce début avec des comédiens, en atelier précisément. Nouveau hiatus, je ne leur demandais pas de le dire, mais si l'on veut de le mimer, disons de le mettre en geste, en mouvement, en trace, en corps, en espace. Nouvelle question donc. De quel espace sortent ces corps pour en créer un autre, qui donne à voir et à percevoir ce qui se passe, se dit et s'écrit dans le récit? De quel commencement sort le commencement de ces corps qui transmet le commencement du récit? La neutralité du premier commencement rejoint-elle le silence nécessaire à l'écoute et le blanc nécessaire à la page? On le voit, on l'entend, cela commence à faire suffisamment de questions pour que décidément je ne choisisse pas plus d'un début de récit. Ce début donc sera celui que vous venez d'entendre, celui d'Au moment voulu, un récit publié par Blanchot voici plus de 50 ans, en 1951. Je m'attarderai longuement sur une phrase, la première, si brève mais si étrange. Nous l'avons entendue à l'instant, écoutons-la à nouveau. En l'absence de l'ami qui vivait avec elle, la porte fut ouverte par Judith. Je ne dirais évidemment pas que cette phrase vaut pour toutes les autres qui ouvrent les récits et les romans de Blanchot, je dirais d'ailleurs exactement le contraire. Mais je puis dire aussi que malgré la singularité de chaque récit et de chaque début de récit, cette phrase participe d'un mouvement général et d'une poétique insistante, propre à l'écriture de Blanchot. C'est en ce sens, en ayant donc à l'esprit les autres commencements, nous en avons entendu deux, sans pour autant les affronter, que j'essaierai cette première phrase de la lire et de l'écouter. Qu'est-ce qui me frappe donc? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'obsède dans cette phrase? Au moins trois principes. Premier principe, la singularité de son fonctionnement référentiel. Une porte s'ouvre. Je remarque d'ailleurs le très joli lapsus de la lecture de Marie tout à l'heure. On a entendu « s'entr'ouvre ». Je crois que c'est tout à fait lié d'ailleurs à la délicatesse de ce début. Une porte s'ouvre, donc en tout cas, dans le texte. Métaphore, si l'on veut, de l'ouverture du récit, et même de l'ouverture de la scène. Mais elle est ouverte à la forme passive, par Judith. Une Judith qui a d'abord été pronominalisée, elle, parce que la première femme à être nommée par le narrateur personnage, qui ne s'est lui-même à ce moment-là pas encore nommé, ni même prénommé, ni même pronominalisé, bref, qui ne s'est pas encore avancé, parce que la première à être nommée, donc ce n'est pas Judith. Judith, que le narrateur, on l'apprend dès la page suivante, a pourtant bien connu, mais c'est l'ami qui vivait avec elle, dont pourtant le même narrateur avouera rapidement qu'il ne la connaît pas. Étrange ordre de présentation des faits et des identités. L'inutile passe pour l'utile, l'attendu devient surprenant, la clarté se fond dans le désordre, le sujet de l'exposition se retire, nous sommes à la limite de toute référenciation, de toute représentation, de toute corrélation possible. Deuxième principe, le dispositif de réflexion. Le « je » n'est pas nommé, avancé, embrayé, mais nous, lecteurs, sommes immédiatement posés, déposés, voire imposés à son regard. Nous regardons avec lui, sans savoir qui il est, nous voyons avec lui la porte s'ouvrir, nous savons même avant lui qu'une amie vit avec cette Judith. Il a dû frapper ou sonner, nous ne l'avons ni vu ni entendu, mais nous avançons placidement vers le seuil de la porte et sur celui du récit. Placidement, oui, sur le rythme tranquille de l'alexandrin, anapestique et néanmoins épique, en l'absence de l'ami qui vivait avec elle. Et du décasyllabe, la porte fut ouverte par Judith. Nous sommes ainsi immédiatement conviés à l'étrangeté d'un face-à-face. Troisième principe, la structure énonciative. Peut-être, malgré toute apparence, plus discursive que narrative. Orale, voire oraculaire, au sens où Blanchot dit ailleurs de la prophétie qu'elle ne nous donne pas tant un avenir qu'elle nous retire un présent. L'opacité de l'énigme. Qui est Judith? Qui est l'ami? Qui est même je? L'opacité de l'énigme est livrée en deux lignes, à une vitesse spectaculaire. Ici, tout se donne, le foyer, le regard, l'ouverture, la vision, mais tout en même temps se retire, absence de l'ami, transparence du narrateur, vide de l'encadrement de la porte. Plutôt qu'à l'ouverture d'un récit, nous assistons à l'ouverture d'une scène. Nous sommes comme au théâtre, nous sommes le théâtre, nous sommes le lieu d'où l'on voit. Ainsi, le narrateur nous surplombe, mais aussi nous voyons avec lui, et encore, le récit se regarde. Je dirais ainsi, mais j'y reviendrai, qu'une voix excède le récit et intercède dans l'écrit. Bref, un vrai début, un début qui bute, qui débute conformément à l'étymologie. Faut-il en effet y voir la marque d'une emprise théologique et téléologique, voire mystique, débuter n'est jamais débuté ex nihilo. Dès les premières recensions du verbe, au XVIe siècle, débuter signifie écarter une boule du but. C'est jouer un premier coup pour savoir qui va ensuite véritablement commencer le jeu. Le paradoxe veut qu'ainsi, comme l'explique Furtière, ce soit un avantage, je le cite Furtière, un avantage de jouer le dernier à la boule, car on débute les autres. Le narrateur de moment voulu joue à la fois le premier et le dernier. Le premier, sans qu'on le voie, c'est le récit, et le dernier, car il nous a débuté. C'est la réflexion de la narration sur le récit. Nous n'avons donc peut-être pas tant affaire à un début in medias res, comme on dit, qu'à un début in medios ludos, un début ludique, spéculaire, spectaculaire, oral, oraculaire, telle est l'hypothèse. Il y a du jeu, nouvelle métaphore si l'on veut, non plus du récit mais du discours, le jeu dans les gonds de cette porte qui s'ouvre. Le début, on le voit, est toujours une figure excessive. C'est bien cet excès qui nous motive ou nous timore quand nous nous mettons, silencieusement ou oralement, à lire. Tout début est un comble, puisque le comble du début, pourrait-on dire, c'est d'avoir un début. Dans cette phrase simple et singulière, nous aurions donc, si l'on veut, deux débuts pour le prix d'un. C'est ce qui lui donne, si j'ose dire, tout son prix, peut-être aussi une légère préciosité, mais donc un jeu et un mouvement. Je reformule mon hypothèse. Le début d'au moment voulu s'ouvre sur une structure forte, ludique, spéculaire, spectaculaire, orale, oraculaire. Une telle structure, je reprends les cinq termes, s'appuie respectivement sur le jeu, le miroir, le théâtre, la voix, l'énigme. Et donc, comme leur essence, le jeu s'appuie sur le hasard, le miroir sur la réflexion, le théâtre sur l'espace, la voix sur le don, l'énigme sur le secret. Enfin, comme leur condition, le hasard s'appuie sur le temps, la réflexion sur le regard, l'espace sur le corps, le don sur l'autre, le secret sur le tiers. Entre ces 15 termes, les termes du début, mais aussi peut-être de la fin, de tout début et de toute fin, et donc aussi de tout milieu, entre ces termes, le début de moment voulu établit des rapports d'aimantation, de polarisation, d'orientation, ou de désorientation, de dépolarisation, de désaimantation. Nous qui lisons, silencieusement ou oralement, sommes pris dans ce champ magnétique entre le jeu, le miroir, le théâtre, la voix, l'énigme, entre le hasard, la réflexion, l'espace, le don, le secret, entre le temps, le regard, le corps, l'autre, le tiers. Il y passe, tour à tour, l'éclat de l'orage, le suspens de la pause, la dureté de la réserve ou de la discrétion. En une phrase, le champ se charge, tout est posé, rien n'est placé, et c'est à ce champ que, chaque fois qu'ils ont eu à lire, me semble-t-il ici, des lecteurs se sont courageusement mesurés. Revenons précisément au début d'Au moment voulu. On y trouve en effet les 15 termes évoqués à l'instant. Le jeu, par la dérobade d'un narrateur qui nous enrobe dans sa présence. Le miroir, au moins son encadrement, et la hauteur immédiate à laquelle nous nous plaçons, qui ne peut qu'être celle de Judith. Le théâtre, par l'ouverture de la porte comme de la première scène à laquelle nous assistons. La voix, par la surimposition du début discursif sur le début narratif. L'énigme, par l'absence d'identification d'aucun personnage, si ce n'est peut-être Judith pour sa signification allégorique, la juive, ou pour sa référence légendaire, l'héroïne biblique qui décapite Holoferne. Mais tout ceci finalement ne contribue qu'à renforcer l'énigme. Et donc encore, le hasard, puisque l'absence de l'ami semble inattendue, ce que confirmera la deuxième phrase. La réflexion, par l'usage de la forme passive. L'espace, par l'ouverture de la porte et ce qu'on imagine qu'elle donne à voir au-delà de Judith. Le don, par le geste même de l'accueil et de l'hospitalité. Le secret, car qui peut dire alors quelles sont les relations qui unissent Judith à son ami. Le temps, car on ne peut pas, dès cette première phrase, ne pas penser au titre, au moment voulu. Était-ce précisément le moment voulu pour entrer ? Le regard et le corps, provoqués dans un face-à-face, l'autre, Judith, le tiers ou la tierce, Claudia, sans qu'on puisse présumer encore si le récit, entre l'autre et la tierce, ne sera pas appelé à renverser ses rôles. Si nous avions le temps de lire plus attentivement les lignes et les pages qui suivent la première phrase, nous pourrions nous apercevoir que tous ces termes sont amplifiés, questionnés ou commentés par le narrateur. Je les suggérais quant au hasard, que confirme la deuxième phrase que je cite. « Ma surprise fut extrême, inextricable, beaucoup plus grande, assurément, que si je l'avais rencontrée par hasard. » Il s'agit même, en quelque sorte, d'un comble du hasard, qui redouble l'énigme. Car enfin, comment être surpris à ce point de voir quelqu'un à qui l'on vient rendre visite ? Énigme que la troisième phrase ne lève pas, mais au contraire renforce à nouveau, je cite, l'étonnement était tel qu'il s'exprimait en moi par ces mots « Mon Dieu, encore une figure de connaissance. » Par quoi l'on comprend aussi que c'est la figure qui prête à l'étonnement. Mais quelle figure ? Le visage de Judith ? L'image de la mémoire ? La trace ou le spectre de la connaissance ? L'objet de la reconnaissance ? La vision de la scène ? Le mot « figure » revient aussitôt dans la quatrième phrase, une phrase mise entre parenthèses comme un aparté. Peut-être ma décision de marcher droit sur cette figure avait-elle été si forte qu'elle la rendait impossible. Impossible figure. Cet impossible n'éclaire pas le sens de ce début, de cette démarche, de cette démarque, de cette décision, ou plutôt devrait-on dire le sens de ces débuts, de ces démarches, de ces décisions au pluriel, puisqu'ils valent chaque fois pour l'énoncé narratif et pour l'énonciation discursive. Les mots-clés de la scène, surprise, moi, figure, sont d'abord inattendus. Une fois posés, ils ne cessent d'être commentés, mais ce commentaire, au lieu d'en éclairer l'apparition, l'enjeu et la signification, redouble leur énigmaticité. Si les trois phrases qui suivent la première renforcent ainsi l'énigme en thématisant l'étonnement et en approfondissant le hasard, en ne témoignant d'une figure que pour aussitôt la suspendre, c'est qu'elles mettent en place une stratégie énonciative, en l'occurrence une stratégie discursive, syncopant le récit, ouvrant les commentaires à l'infini, les dépliant par des phrases disjointes, paradoxales, les repliant par des phrases crispées, intriquées, alignant à la limite de la parataxe les guillemets du monologue intérieur et les parenthèses du commentaire dans le commentaire. Ces déboîtements, ces bizarreries, ces chocs, ces heurts multiplient les procédures orales, oratoires, pour ne pas dire, encore une fois, oraculaires. Tour à tour, la voix intérieure s'exclame dans le temps de l'énoncé, puis se met en réserve dans le temps de l'énonciation. Le début n'a aucune vocation d'éclaircissement narratif. Sa vocation, c'est bien le mot, l'oralité compliquée de ses appels et de ses contre-appels, c'est de stratifier diversement le processus de ses étranges retrouvailles. Bref, la porte ne s'ouvre pas si facilement, si harmonieusement. Le jeu consiste aussi à ce qu'il en manque, du jeu sur les gonds. Je parle de stratégie parce qu'il s'agit bien, sur le seuil du récit, d'atteindre à l'autre, de placer ou de déplacer le lecteur. Cette stratégie énonciative de la double entrée, narrative et discursive, pourrait en appeler à ce que Blanchot a nommé, divisant les catégories, la voix narratrice, instancielle, et la voix narrative, neutre. Il y aurait donc ici comme une main qui écrit, qui maintient et qui manœuvre, qui en appelle à la voix narrative pour stéréographier la voix narratrice. Mais il me semble que, parce que, en ces temps de nouveaux romans, nous sommes en 1951, tout ceci encore n'a rien d'exceptionnel, l'analyse ne peut s'en tenir à ce seul marquage de différenciation. Je renverrai donc pour davantage de détails à l'étude précieuse de Jean-Patrice Courtois que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure. J'en dirai cependant quelques mots. À partir d'une lecture parallèle de « La solitude essentielle », le chapitre qui ouvre l'espace littéraire, et du récit « Celui qui ne m'accompagnait pas », Jean-Patrice Courtois se livre à un travail critique, poétique et philosophique sur l'élaboration de la voix narrative chez Blanchot et de ce qui en elle a trait au neutre et au murmure. Les maîtres mots sont là, le neutre, le murmure, la voix, mais aussi le ton, le retrait, l'articulation, l'interruption, grosso modo les concepts de l'espace littéraire et de l'entretien infini, mis en rapport parfois avec telle théorie de Benveniste, par exemple lorsque Courtois parle de ce lien, je le cite, entre la neutralisation des conditions proprement linguistiques de l'énonciation et le « il », la personne qui n'est pas une personne, selon Benveniste, le neutre de l'œuvre qui n'existe dans le discours que par le détricotage des mailles significatives de l'énonciation. Je reprends cette formule, c'est un tel détricotage des mailles significatives de l'énonciation que j'ai essayé jusqu'ici également d'être sensible, et c'est pourquoi je retiendrai de cette étude de Courtois au moins trois points forts. Premier point, l'accent mis sur l'oralité et la musicalité. Jean-Patrice Courtois parle d'une énonciation en accordéon. Plus loin, il ajoute les signes extérieurs de fiction de la fiction. Nous sommes bien, on le voit, dans une lecture à double entrée, dans un regard du récit sur lui-même. Les signes extérieurs de la fiction rentrent au sein de la langue et modifient le régime du récit jusqu'à aboutir à un récitatif de la pensée. C'est à un tel récitatif que les lecteurs à haute voix, ici, ont eu vocalement et physiquement à faire, ce qui, chaque fois et pour chacun, a compliqué les choses d'une oralité enserrée dans l'écrit. Deuxième point, l'accent mis sur le heurt syntaxique. En termes de déshabillé et de désappropriation, je cite à nouveau Courtois, le déshabillé grammatical de la langue, la désappropriation à l'endroit même du propre. Du coup, la déconstruction des conditions linguistiques de l'énonciation a elle-même comme revers la recomposition des conditions de l'interlocution dans un autre espace, je-il, pointant une géographie interlocutive propre. Je reprends la phrase parce que c'est, me semble-t-il, exactement ce qui s'est passé ici. La question qui s'est posée à chacun, la question à laquelle chacun a été contraint, c'est bien cela, comment, à partir d'une déconstruction des conditions linguistiques de l'énonciation, recomposer les conditions de l'interlocution dans un autre espace. Troisième point, l'accent mis sur la part indissociablement abstraite et sensible de ce murmure articulé sur la langue et retiré en elle. Si l'écriture de Maurice Blanchot écarte toute facilité de représentation, elle ne se réfugie pas pour autant dans l'abstraction, ce mauvais infini du murmure. Le murmure, neutre peut-être, est toujours celui d'une voix ou d'un corps. Je sais gré à Jean-Patrice Courtois de ne pas prononcer une seule fois dans son article ce mot si facile, le corps. Si je le prononce, c'est qu'il est précisément question pour nous ici de voix haute dans le murmure et de corps exposé dans la non-identité à soi ou à toute figure. Et que c'est bien là que se sont levées les questions. Je reprends chacun des trois points. Ces jeux incessants entre, premier point, oralité et littérarité. Deuxième point, entre désappropriation et appropriation. Troisième point, entre sensibilité et abstraction. Entre, précisément, puisque jamais l'un ne défait l'autre, ne se défait de l'autre. Ces complications auxquelles la lecture du texte nous livre se focalisent donc dans « Au moment voulu » sur un rapport surprenant entre un moi et une figure. Car si les 15 termes que j'énumérais tout à l'heure font retour dans les 3 ou 4 premières pages du récit, c'est pour interroger précisément ce rapport surprenant entre le moi et la figure. Un moi pris entre personnalité et impersonnalité, autorité et démantèlement, blessure et fascination, renoncement et résurrection. Une figure lue tour à tour comme cadre, copie, ce sont les termes qui reviennent dans les pages qui suivent, une figure lue tour à tour comme cadre, copie, ressemblance, souvenir, oubli, regard, et comme air, ensemble de traits ou apparence. Ainsi, la figure de Judith ne surgit pas simplement dans le récit. Ce que Blanchot donne à lire, silencieusement ou oralement, c'est l'ébranlement causé à un sujet par une figure qui, thématiquement, récurremment, va venir strier un récit qui pourtant avance, avance au gré de l'avancée du narrateur dans l'appartement et de notre avancée avec le narrateur dans cet appartement. Probablement n'était-il pas d'autre moyen de mettre en avant ce jeu du discours avec le récit que par l'absence, la double absence qui inaugure le récit, l'absence thématisée, celle de l'ami, l'absence rhématisée, celle du narrateur, un narrateur mis à part de sa propre part, dit encore Jean-Patrice Courtois, un jeu toujours déjà illéisé, aurais-je envie de formuler. Car, entendons-nous bien, si Blanchot avait simplement voulu dire que le narrateur, plusieurs années après leur rupture, revient voir son ancien ami qui vit désormais avec une femme, mais qu'il est surpris de la trouver à ce point si peu changée, il s'y serait probablement pris autrement. Surprise, surprise, ce qui surprend le lecteur cette fois dans ce début in medias ludos, ce n'est pas l'attente anxieuse de ce qui se passera après, comme lorsque Chen lève la moustiquaire dans le roman de Malraux, ni même l'avidité de savoir ce qui s'est passé avant. Ce qui surprend le lecteur, c'est comment les choses peuvent se passer ainsi dans une scène qu'il faut bien nommer une scène de reconnaissance. Autrement dit encore, ce qui se passe dans ce début concerne une phénoménologie de la reconnaissance. Faut-il donc écarter le tiers, l'actif, la voix active, l'action, et la présence, pour commencer à écrire ce qui se passe dans une scène de reconnaissance? Qu'est-ce qui s'ouvre si singulièrement dans cette scène et qui méduse bouche bée le narrateur et le lecteur? Qu'est-ce qui rend par là même si difficile une lecture à haute voix qui trahisse quelque chose de cet arrêt, de cette stupeur, de cette béance? Le lecteur silencieux peut bien continuer, même stupéfait, irrité, ou intrigué ou bousculé, mais comment le lecteur à haute voix pourrait-il parler, lui, bouche bée? Comment peut-on donc écrire, dire, lire, jouer une scène de reconnaissance? A-t-elle même un début, une fin, un milieu? Peut-on ainsi la limiter, l'espacer, la clarifier? Dans le récit, une première sortie de l'étonnement advient 3 pages et demie après le début. Cette virtuelle fin du début manifeste le passage soudain au rayonnement dévastateur, je cite, d'une, on l'a entendu tout à l'heure, d'une puissance sans regard. Comme toujours avec Blanchot, les questions sont immenses. On imagine qu'il me reste peu de temps pour les traiter. Entre une surprise inextricable, première ligne, et une puissance sans regard, 3 pages et demie plus loin, entre un regard sans puissance et une évidence aveuglante, entre un début du début et une fin du début, qu'est-il advenu ? Quel est, dans ce récit, le premier événement advenu ? Et à qui ? Est-ce même un événement narratif ? Tout ce début, toute l'écriture de ce début, ne signifie-t-elle pas à quel point cet événement n'appartient pas à l'ordre du narratif ? Mais de quel langage pourrait-il tenir, alors ? C'est ce que je voudrais au moins indiquer dans le temps qui me reste. Je dirais que cet événement de la reconnaissance ne peut tenir qu'à un langage poétique ou fragmentaire. Que le jeu du discours dans le récit, c'est précisément cette irruption désenclavée, dissonante et distendue du poétique ou du fragmentaire dans le narratif. Cet « ou » lui-même, poétique ou fragmentaire, doit être interrogé. Mais si l'hypothèse est juste, elle permet de comprendre pourquoi ces textes posent à la fois la difficulté et l'enthousiasme de la lecture dont je parlais. Car aucune phénoménologie de la reconnaissance ne saurait commencer sauf à constater le caractère infini de la reconnaissance. C'est bien en quoi cette fin du début ne peut être que virtuelle, même si elle actualise un événement. Car ce qu'elle inscrit, ce sont les conditions paradoxales sans lesquelles aucune reconnaissance ne saurait ni s'exercer, ni même se reconduire. Condition paradoxale de la reconnaissance, donc précisément la méconnaissance, le brouillage, le désaccord, l'étrangeté, le malentendu, l'aveuglement. C'est donc un processus infini qui est donné dans ce moment fini du début du récit. On le comprend, Blanchot ne donne pas seulement à voir une scène de reconnaissance, comme serait celle de Julien Sorel et de Madame de Rênal, il ouvre à ce qui se passe et se contracte dans une scène de reconnaissance. Ou plutôt, il la donne en même temps qu'il l'ouvre, la diffère en même temps qu'il la diffracte, la compose en même temps qu'il la déconstruit, d'où, encore une fois, la surprise inextricable de la difficulté et de l'attrait qu'il suscite à la lecture et pour la lecture. Une phénoménologie de la reconnaissance peut-elle même commencer ? L'écriture de cette scène ne pose-t-elle pas à la phénoménologie la même question que le concept de ou du toucher que Jacques Derrida aborde avec le motif des yeux qui se touchent ? Une question, dit-il, pré-phénoménologique ou peut-être transphénoménale. Notons d'ailleurs, s'il en était besoin, pour rapprocher les corpus et les questionnements, l'apparition précise de ce motif du coup du regard. À la 3e page de Moment voulu, on l'a entendu tout à l'heure aussi, je recite le passage. « Elle me regardait d'une manière étrange, spontanée, vive et cependant de côté. Ce regard, je ne sais pourquoi, me porta un coup au cœur. » Le regard, le coup, le cœur, autant de récurrences dans le livre de Derrida que je viens de citer, Le toucher, Jean-Luc Nancy. Curieusement, pourrait-on dire, Blanchot n'est cité qu'une seule fois dans ce livre monumental, en note, mais justement à propos du toucher de la lecture dans Thomas l'Obscur. J'y reviendrai évidemment. Ce qui m'intéresse d'abord, par, comme et à travers le toucher, c'est à quel point l'ébranlement de la phénoménologie qui l'ouvre à la pensée vaut pour la question de la reconnaissance. Et comme nous savons quels lecteurs de Blanchot sont Derrida et Nancy, ce que je voudrais suggérer, c'est à quel point leur lecture de Blanchot n'est pas indifférente à leur pensée du toucher et à leur questionnement de la phénoménologie. Encore une fois, la scène d'ouverture de Moment voulu va me servir d'exemple ou de repère. On y assiste en effet à un mouvement d'extériorisation du sujet, au sens, comme l'écrit Jean-Luc Nancy, où cela, je le cite, « ne signifie pas qu'il porte au dehors la face visible d'une intériorité invisible. Cela signifie littéralement qu'ego fait et se fait extériorité, espacement de lieu, écartement et étrangeté qui font le lieu, et donc espace même, spatialité première d'un véritable tracé dans lequel et dans lequel seulement ego peut survenir et se tracer et se penser. » On dirait ces lignes écrites exactement pour ou avec les premières du récit de Blanchot. Je me souviens ici de la phrase de Bataille. Lévinas décrit et Maurice Blanchot crie en quelque sorte l'Ilia. Dirais-je encore que Blanchot crie l'espacement, l'écartement et l'étrangeté ? La métaphore orale, le cri, qui pourrait me renvoyer à la fois à l'oralité du début et à sa stridence ou à ses stries écrites, me convient, comme l'écrit Bataille, en quelque sorte. Ce que l'on entend poindre depuis un cri, tu ou chu, ce que l'on voit poindre depuis une béance, une bouche bée, un haut qui s'ouvre dans l'écho, c'est l'avènement d'un sujet, d'une possibilité de dire je, de s'éprouver et de s'énoncer je dans une scène de reconnaissance. Et cela passe par un processus de figuration. Ainsi, ce qu'en commente Derrida, c'est que cet espacement ne se passe pas du revenant spectral. On sait, ajoute-t-il, qu'il ne suffit pas de reconnaître ou d'attribuer de l'étendue à quelque chose ou à quelqu'un pour en faire un corps et un corps tangible. C'est exactement ce que le personnage expérimente et que le narrateur nous met dans la situation béante, béée, d'expérimenter. Le récit ne s'ouvre que sur l'étendue et cela ne fait encore aucun corps, ni aucun corps tangible, ni aucun corps propre, ni même aucune subjectivité, aucune subjectité. Le récit s'initie et nous initie par une scène d'exposition, d'exposition. Une figure et un moi ou un ego sont exposés dans une étendue de deux côtés d'un seuil, posés, exposés l'un à l'autre, affrontés, expropriés, dissymétriques, souvenons-nous d'ailleurs du coup du regard décrit par Blanchot comme deux côtés. Une figure et un moi, donc sans assomption ni figuration partagée. C'est précisément le spectre attendu d'une figuration antérieure qui s'évente avec l'ouverture de la porte pour faire manifestement retour à la page suivante. Je cite « De toute manière, il y avait manifestement entre nous une telle accumulation d'événements, de réalités démesurées, de tourments, de pensées incroyables et aussi une telle profondeur d'oubli heureux qu'elle n'avait aucune peine à ne pas s'étonner de moi. » Une telle constatation du narrateur renforce d'ailleurs la dissymétrie dont nous parlions, puisque ce qui se révèle surprenant dans la surprise, finalement, c'est que celle qui devrait l'être surprise par la venue de l'autre, eh bien c'est précisément elle qui ne l'est pas. Même la surprise n'est donc le lieu d'aucune assomption possible, ni d'aucune figuration commune. Tout, dans la présence, la proximité, la propriété, la coprésence, la comparution, tout est suspendu. La simultanéité de l'écart et du contact, écrit encore Nancy, c'est-à-dire la constitution la plus propre du cum, s'expose comme indétermination et comme problème. Il n'y a pas dans cette logique de mesure propre de l'avec. L'autre la lui retire dans l'alternative ou dans la dialectique de l'incommensurable et de l'intimité commune. Dans un paradoxe extrême, l'autre s'avère comme l'autre de l'avec. Fin de citation. Il n'y a ainsi, à l'orée de ce récit, ni être avec, mais l'incommensurabilité négative d'une altérité ou d'une altération de l'avec dans l'espacement de l'étendue. La mise en jeu de la reconnaissance, comme le commente Derrida à propos du toucher, manifeste une expérience toujours déjà hantée, constitutivement hantée par quelque hétéro-affection liée à l'espacement puis à la spatialité visible. Aucune scène de reconnaissance ne se passe de cette intrusion d'une spectralité qui écarte toute figuration possible et la livre à l'espacement. L'ouverture de la porte préside ici in medias res à la reconstitution d'un corps, car l'effraction du récit par le discours indique que cette reconstitution est en réalité un processus in medios ludos, cyclique, fragmentaire et rémanent. Cette reconstitution passe par l'étendue, l'espacement, l'autre, le dehors, l'absence, le spectre, l'oubli. Aucun espacement de cette sorte n'est possible sans la figure d'un archi-espacement qui rend la chute dans cet espacement premier du récit possible. Voilà aussi ce qui, à la limite de l'insaisissable, saisit le lecteur, ce qui, à la limite du début, le débute. C'est dans ou sur cet espacement que vont s'inscrire les variations et les déboîtements de la figuration, de la pensée et de la mémoire. Le début de Moment voulu expose donc un rapport interrompu qui se saisit et se ressaisit, s'éprouve et se rééprouve, dans son interruption même. Ce que figure aussi, à sa manière, cette porte qui a bien dû deux fois être touchée. frappée ou toquée ou martelée ou sonnée avant d'être ouverte par le loquet, le taquet ou la poignée, sans pourtant qu'aucun de ces touchés coïncide. Cette non-coïncidence métonymique est discrètement tue, originellement éloignée, renvoyée à l'avant d'un récit qui s'ouvre, lui, immédiatement sur l'ouverture et l'espacement. Porte ouverte passivement, champ libre et libéré par l'absence de Claudia, seuil occupé par l'étrangeté d'une figure. Ce qui est renvoyé à l'avant du récit, c'est donc l'opération dans la certitude sensible. Ainsi, un moi et une figure se saisissent dans ce qui leur manque, dans une déliaison qui, aussitôt mais en toute divergence, ébranle les sensibilités, transit les corps, suspend les certitudes et les identités. D'entrée de jeu, tout se touche de n'être pas touché, les deux côtés de la porte, les deux mains, les deux visages, les quatre yeux, les deux corps. La scène de reconnaissance s'inaugure d'un tel toucher sans toucher. Quant au reste du récit, traversé de syncopes comme autant de milieux, il se passera, lui, dans un mouvement de va-et-vient entre ne pas toucher et toucher trop. Il y a dans Corpus cette phrase de Jean-Luc Nancy. La puissance du créateur tient à la déconstruction originelle de toute image reconnaissable. On voit bien ce qui, dans cette phrase, touche à la déconstruction du christianisme entreprise par Nancy, ce qui n'entrera pas ici dans mon propos, même s'il en reste un horizon auquel appellent d'ailleurs étrangement et fortement les simples noms de Thomas, d'Anne ou de Judith, ainsi que dans les premières lignes que je commente, l'apostrophe « mon Dieu ». Rapportons simplement la phrase citée à la création du récit. La puissance de ce début tient en effet à la déconstruction originelle de toute image reconnaissable. C'est exactement, me semble-t-il, ce qui s'y passe, en quoi l'on voit que la figure vient bien ici avant tout visage et la béance avant tout sujet. C'est cette exposition du non reconnaissable ou du motif de la reconnaissance comme impossible extraction qui saisit le personnage comme le lecteur. Par quoi seulement et paradoxalement la scène de reconnaissance peut commencer à advenir. L'événement de la reconnaissance n'advient que de ce qu'il ex-vient, de ce qu'il est-vient, de ce que tout semble fait pour qu'il ne puisse pas venir. En ce sens, la reconnaissance est chaque fois un événement insensé. Sa puissance est sans regard, au-delà du regard, au-delà même du regard qui touche. Sa puissance est la pure puissance de toute faculté sensorielle, mais archi-affectée, non affectée ainsi par quelque objet, mais affectée par une figure. Un tel espacement, posé dès la première phrase, dans une fulgurance sans égale, il lui reste à s'excrire. Le terme, on le sait, est fréquent chez Nancy, mais il s'origine chez Blanchot, le « re » du réécrire comme « ex », ouverture de toute extériorité, dit le pas au-delà. Oui, on peut bien parler d'une écriture, comme le fait Derrida à propos de Lévinas, qui désoriente, je cite Derrida à propos de Lévinas, qui désoriente délibérément la syntaxe du non-to-phénoménologique, fût-elle dialectique. Même procédé, d'autant que nous sommes précisément dans la sphère ou dans l'espace du neutre. Il y a ici une neutralisation du récit qui passe par sa syntaxe démanchée et son oralisation disloquée, son oralisation écrite, excrite. Comment lire donc, sinon hors d'un apparent flux intuitionniste et continuiste, celui qui caractérise si souvent les lectures, orales ou silencieuses, prises au piège de la ligne écrite, uniment et placidement disposée sur la page du livre. Comment lire? Il y faut du temps, et bien davantage, excusez-moi, que 6 séances. C'est d'ailleurs bien ce que disent les pages de Thomas l'Obscur consacrées à la lecture. On y retrouve la puissance mortelle du livre, le toucher, celui des mots par le regard. On y retrouve une porte qui s'ouvre, des couloirs à hanter, déjà hantés, la fascination, l'interruption, la privation des sens ou du sens, et une reconnaissance impossible. Je cite Thomas l'Obscur, « Il se reconnut avec dégoût sous la forme du texte qu'il lisait. » Il y faut, pour lire dans ce récit, presque toute une nuit. Oui, peut-être est-ce cela qu'il lui fallut ici pour lire presque toute une nuit. Si l'écriture, l'excriture, alors, fait trace, c'est, comme le soulignait déjà Jean-Patrice Courtois, que l'image n'y suffit pas. C'est pourquoi l'image est ici négative et cède toujours la place à une manœuvre. Je cite une dernière fois Courtois. Le récit est écrit au niveau non de la manœuvre elle-même, dont on ne sait jamais si elle a commencé vraiment, mais au niveau du mouvement qui engage ce que doit être la manœuvre dont on recueille les poussées, les élans, les bascules, et dont les deux mains, celle qui écrit et celle qui n'écrit pas, les deux mains de la solitude essentielle, sont le dépliement critique. Poussée, élan, bascule, dit Courtois, strie, déboîtement, fragmentation, dirais-je. La fragmentation du récit, d'un récit à la syntaxe de bout en bout, à la limite de la parataxe, est aussi, paradoxalement, cette fragmentation du récit, ce qui le fait tenir, ce qui, en l'excriture, le fait tenir. Au moment voulu, reste un récit parce qu'il enchaîne dialectiquement des images, mais il s'approche au bord du non-récit en ouvrant incessamment l'image à ce qui ne fait pas image, à ce qui la démantèle. Nous entendions déjà la dernière fois, me semble-t-il, dans l'intervention de Jean-Pierre Théboul, quelques propos qui allaient en ce sens. Nul doute qu'il en aille pour Blanchot, surtout en ces années, je rappelle la date du récit, 1951, les seules où il lui est arrivé, sinon d'écrire sur l'art, au moins d'écrire dans des revues d'art. Nul doute qu'il en aille d'un souci plastique et poétique. Il serait temps, peut-être, enfin, de lire dans l'écriture de Blanchot une poétique. Cette écriture, de plus en plus disloquée jusqu'au fragment de l'attente-l'oubli qui disjoigne la parole, interrompue par un ou deux leitmotifs, « Fais en sorte que je puisse te parler, faites en sorte que je ne puisse vous parler », jusqu'au fragment encore du pas au-delà et de l'écriture du désastre, cette écriture abandonnera de plus en plus délibérément ses éléments constituants à la strie du trait, à l'isolement du bloc, à la résonance de la surprise inextricable. Ici encore, dans « Au moment voulu », rassembler, concaténer, parataxer, phrases et blocs de phrases se regardent, s'écartent, se retournent, se touchent, s'opèrent, s'interprètent, se reconnaissent, se défigurent. Commentaire infini du commentaire sur le commentaire et dans le commentaire. Rien encore ne se désosse, mais les vertèbres sont mises à mal. D'une telle poétique qui serait à définir, à analyser et même, pourquoi pas, à schématiser, il me semble au moins pouvoir dire ceci. Elle ne cesse d'exposer la scène, l'espace, l'espacement, le toucher et peut-être la lecture de la reconnaissance. Il ne me reste pas grand-chose à dire, peut-être seulement à lire quelques fragments de poèmes que son auteur, je l'espère, me pardonnera d'utiliser, mais il me semble tellement répondre à la poétique de Blanchot, tout en s'en écartant évidemment, que je ne résiste pas à les citer. Il lui est arrivé d'ailleurs de me les présenter comme une tentative d'être juste un peu dans la désadhésion. C'est à une telle justice que j'ai tenté de me livrer, et je lis, peut-être mal, ces quelques passages de « L'absence réelle » et de « L'immobile est un geste » comme un hommage. N'oublions pas d'entendre derrière, loin derrière, la porte ouverte par Judith. Pour nous qui sommes le lieu, la paroi sensible de ce qui nous a été retiré à jamais, l'absence est peut-être la seule forme de présence que nous puissions réellement toucher, la seule forme que nous puissions sentir dans le moindre de nos gestes, la seule qui puisse nous restituer au mouvement de la vie en nous l'ôtant à chaque instant. Peut-être que la surface n'est que l'appel incessant de l'intérieur. Tout corps se tient au bord de lui-même, de toutes ses forces, comme s'il attendait un signe pour se franchir. Un corps vient toujours de loin. Il ne commence pas à l'instant de son apparition. Il commence avant, dans ce qu'il appelle. Pour qu'il y ait un monde, il faut beaucoup retrancher et surtout ne rien ajouter. C'est en retranchant quelque chose à ce monde que des corps peuvent apparaître. Un corps en mouvement est un corps auquel on ôte à chaque instant de ses pas, non seulement le volume de son corps, mais aussi son poids de corps. Et si on retrouve ce corps dans le pas suivant, c'est qu'il y a une telle insistance dans l'invisible à vouloir apparaître qu'il ne peut manquer de corps pour se glisser dans l'apparence d'un instant. Et ce dernier extrait, si proche déjà, mais si différemment, du roman intérieur que Jean-Louis Giovannoni, puisqu'il s'agit de lui, s'apprête à publier. Si tout apparaissait au même instant, il n'y aurait plus d'intérieur, tout serait intérieur. Aucun corps ne commencerait. C'est précisément, me semble-t-il, parce que tout n'apparaît pas au même instant, au moment voulu, que les corps commencent et recommencent et se reconnaissent, fussent dans l'absence réelle, et qu'écriture et lecture poursuivent une extériorité inépuisable. Merci.